Demain, j'ai un background de philo sur les droits de la femme. Qu'est-ce que je peux citer comme philosophe ?
Tu connais Gabrielle Suchon ?
Mais parlez moins fort, soyez moins hystérique, calmez-vous.
Tout le monde s'adresse au ministre en disant « Bonjour, monsieur le ministre » et à moi en disant tout simplement « Bonjour ».
Les femmes ont moins de place qu'avant dans les programmes d'histoire.
Je crois qu'il faut redonner aux hommes la place qu'ils ont dans la vie des femmes, c'est-à-dire pas la première place.
Ça n'est quand même qu'une nana.
Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Banana. Aujourd'hui, nous allons parler de Gabrielle Suchon. Alors, cette femme née le 24 décembre 1632 à Sémur-en-Auxois est considérée comme une philosophe morale et catholique féministe française. En effet, avec son passé un peu triste, son père meurt lorsqu'elle a 13 ans. Elle entre ensuite dans un couvent des Jacobines après avoir fui un mariage forcé car elle ne voulait pas se marier. Elle s'y échappe pour marcher jusqu'à Rome, demander au pape la révocation de ses vœux de mariage forcé, et elle y obtient le déliage religieux de ses vœux. Le parlement de Dijon casse la décision du pape et condamne Gabrielle à retourner dans son couvent. Mais Gabrielle refuse de capituler et sa ténacité finit par triompher, puisque les autorités n'appliquent pas la décision du tribunal. La jeune femme reste donc célibataire et libre, malgré les normes et conventions de son époque.
Elle va alors consacrer son temps à l'étude et à l'enseignement, et donc va acquérir un savoir important sans qu'on sache exactement comment elle a appris tout ça. Je pense que c'est elle-même, en fait, dans les livres. Elle va se lancer dans la défense du parti des femmes en procédant par la raison et l'argumentation et non par les sentiments. C'est-à-dire qu'elle ne va pas du tout victimiser les femmes, mais montrer plutôt des faits concrets qui prouvent que les femmes doivent être traitées comme les hommes. Et elle ne dénonce pas la religion en tant que telle, malgré le fait qu'on l'a quand même forcée à aller dans un couvent, mais va s'opposer aux rigueurs que la société impose aux femmes au nom du christianisme lui-même. Et donc elle va beaucoup interpréter les paroles de l'écriture au profit de son combat.
Et on peut s'apercevoir de la philosophie même de Gabrielle Suchon, qui est une philosophie de liberté, du refus de la contrainte, de la force et du courage et de la singularité individuelle. Puis elle reçoit un arrêt du Parlement de Dijon la condamnant à rentrer dans son monastère, pour la petite anecdote, et aussi en rapport avec son pseudonyme neutre pour le style de l'époque qui était... G.S. Aristophile, c'est à la fin d'un de ses ouvrages dans les privilèges d'imprimé qu'on y retrouve les initiales de la dame, notre bien-aimée demoiselle G.S.
Et d'ailleurs, elle a quand même pas mal de culot parce qu'elle va quand même réfuter Aristote, discuter Hippocrate et prendre à témoin aussi saint Thomas d'Aquin. Et je vais vous citer une phrase qu'elle a écrite que je trouve quand même assez représentative de sa personnalité. « La faute d'Ève seule n'entraîne aucunement la chute. » C'est lorsqu'Adam tombe que l'humanité tombe. C'est la faute du mal originel qui a tout enclenché. Donc là, on montre, je pense pas que cette phrase puisse représenter finalement tous ses travaux, mais il y a un peu une sorte de quand même colère en elle et vouloir finalement inverser les rôles du fait qu'on accuse les femmes d'être d'attirer le regard, d'être le mal entre guillemets dans la Bible, alors qu'elle, elle va dire l'inverse finalement.
Elle reste volontairement célibataire et d'ailleurs elle écrit un traité nommé « Du célibat volontaire ». Et ça parle d'être célibataire et non religieuse à l'époque et c'était très mal vu du coup par la société de son époque. Aussi, elle a fait des écrits sur la déconstruction du mot « faiblesse » qui est souvent attribué au sexe féminin et donc elle voulait prouver, elle voulait essayer de comprendre pourquoi il était attribué au sexe féminin et déconstruire ce mot.
Oui, et 3 ans avant sa mort, elle introduit une pensée de l'individu au féminin, où elle développe et démontre la nécessité d'un troisième statut qui permettrait à la femme d'être en possession d'elle-même et de ses biens, hérités par naissance ou gagnés par son travail. Elle décrit une femme libre de contraintes externes qui peut donner ce qui lui appartient en propre, son temps, son énergie, sa générosité, ses soins, ses compétences, son affection à des particuliers ou à la République. Enfin bref, elle est un peu la précurtrice de ce qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de femme célibataire et libre. Quoi.
Et son pseudonyme masculin dont tu parlais tout à l'heure, elle l'a pris afin de ne pas se faire censurer, car dans son temps, les femmes n'avaient pas le droit de faire de la philosophie. Donc, comme tu as dit, c'est la précurseuse...
Oui, c'est ça.
Précurseuse, oui. La précurseuse de la philosophie.
Elle explique aussi dans ses écrits qu'il y avait à ce moment-là, il y avait aussi un débat intellectuel appelé la querelle des femmes, donc qui avait lieu en Europe. Donc c'était un débat sur la question de la femme. Et donc ils débattaient sur la nature morale et sociale de la féminité. Bon, bien évidemment, on se doute bien que les participants de ce débat étaient un mélange assez inégal de femmes ou d'hommes. Il y avait beaucoup plus d'hommes. Et aussi, la plupart des historiens considèrent que Gabrielle Suchon a contribué à ce mouvement intellectuel populaire. Parce qu'à l'époque aussi, il faut savoir que les femmes n'avaient pas le droit de lire et de participer à un travail intellectuel. Et donc pratiquement tous les universitaires étaient des hommes de son vivant. Et aussi, on voit au début, elle n'a pas vraiment... Enfin, à l'époque, il n'y avait pas d'école pour les femmes. Heureusement, elle venait d'un milieu aisé qui lui a permis de faire des études, mais à la maison. Et aussi, elle a quand même une éducation religieuse avec le couvent. Mais sinon, les femmes n'étaient pas du tout...
Autorisées à...
Oui, donc ce qui montre aussi qu'elles n'étaient pas forcément poussées à remettre en question la société.
Et en plus, elle a réussi à se crédibiliser un peu dans la philosophie parce qu'elle a même pas fait des études en philosophie ou mathématiques, physique ou chimique. Elle s'est vraiment formée elle-même et genre c'est un exemple à suivre quoi.
Mais d'ailleurs, c'est une érudite qui a été oubliée, qui a été longtemps redécouverte dans les années 70 par Pierre Ronzeau et ensuite par Paul Hoffman. Mm. Voilà, anecdote.
Aussi, dans sa carrière, elle a commencé à publier très tardivement ses écrits, donc vers l'âge de 60 ans. Donc je me demande si elle n'a pas voulu attendre...
De bien être formée. C'est vrai que ça a dû lui prendre beaucoup d'années quand même pour apprendre tout ça. Surtout que, même si dans les livres, ça ne doit pas forcément être très... Enfin, c'est difficile à comprendre certaines théories, par exemple philosophiques. C'est pas donné à tout le monde de comprendre ça. Rien qu'en cours de philosophie, au terminal, tout le monde ne comprenait pas tout. Alors dans les livres, j'imagine...
Et je pense aussi elle a été un peu mise de côté parce qu'elle était considérée comme dangereuse, peut-être par ses collègues.
Clairement, oui.
Et parce qu'elle pouvait... soulever des mouvements auprès des femmes et les inciter à avoir une égalité avec les hommes. Quoi.
Et donc même elle va proposer en ses écrits, je ne sais pas si on l'a déjà dit, mais un nouveau statut social et juridique pour les femmes. Et souvent ses œuvres servent d'appel aux femmes à rompre avec les attentes du genre et à embraser une nouvelle liberté. Elle peut même, donc on disait qu'elle pouvait être considérée comme l'une des premières militantes. Et aussi l'une des premières philosophes à aborder les sujets des droits de l'homme.
Et en fait, elle s'oppose à ce que la société impose aux femmes, par exemple le mariage, et comme elle l'a très bien démontré en fuyant le sien, au nom du christianisme.
Et pour elle, il n'y avait pas de sexe supérieur à l'autre. Elle voulait vraiment que ce soit...
Sur un pied d'égalité.
Tout soit égal dans tous les domaines, quoi.
Mais aussi, il y a une question que je me pose, c'est quand même comment elle a fait pour comment elle faisait pour vivre, parce que je ne sais pas si elle gagnait de l'argent, ça devait sûrement être son héritage, je sais que sa famille, mais c'est peut-être une question qui nous tracasse, qu'il n'y a pas beaucoup d'informations non plus sur elle.
Ouais.
Enfin voilà.
En tout cas, merci d'avoir écouté le podcast. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, comme d'habitude. Et on vous laisse avec cette petite musique.
Pendant ce temps, révisez bien la philo, les lycéens.